Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Mahé, le président de la MAIF. Bonjour Dominique.
Bonjour Alice.
Comment vas-tu ?
Très bien, très très bien.
Alors déjà, avant de nous parler de la MAIF, j'ai envie de revenir sur toi et ton parcours. Quel élève tu étais ?
Quel élève j'étais ? Alors d'abord, j'étais à Rennes, où je suis né. J'ai fréquenté l'école primaire publique, le collège et ensuite l'école normale. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Sans immodestie, je considère avoir été un bon élève, studieux. À l'époque, il y avait des classements et donc quand j'étais pas premier, j'étais deuxième. Voilà. Et quand j'étais deuxième, je n'étais pas premier. C'est vrai pour l'école primaire, c'est vrai pour le collège. Et puis, ça date un peu de rappeler ça, mais à l'issue de la classe de troisième, il y avait à l'époque dans chaque département un concours départemental où l'on pouvait accéder à une école qui s'appelait l'école normale d'instituteurs, qui avait la vocation de former donc les enseignants ex-hussards de la République, comme aurait dit Charles Péguy. Et donc, à l'issue de la classe de troisième, j'ai passé ce concours, comme l'avait fait d'ailleurs mon frère aîné, de 6 ans plus âgé que moi. Et nous avons eu la chance, je dis bien la chance, enfant de famille ouvrière, d'accéder à l'école normale d'instituteur. Pourquoi c'était important ? Parce que cela assurait, et pour les parents c'était éminemment important, la gratuité des études de lycée en réalité. Nous étions internes. Si j'avais à qualifier l'école normale d'instit, je dirais que c'était un séminaire laïque où l'on apprenait, outre les matières fondamentales, les valeurs de la République que l'on allait ensuite, bien sûr, diffuser auprès des jeunes têtes du département. Et donc, je suis entré à l'école normale d'instituteurs de Rennes, 3 années, seconde, première, terminale, très heureuse, bonne élève aussi, ce qui m'a permis ensuite, post-bac, de fréquenter l'université de Rennes, de faire des études d'histoire et de géographie, et donc de devenir très jeune en réalité par rapport aux enseignants d'aujourd'hui, à 21 ans, j'enseignais.
C'était un rêve ou c'était un rêve de devenir enseignant ?
Alors dire que c'était un sacerdoce que un jour dans le ciel j'ai vu Jules Ferry qui m'a dit « Mon garçon, tu seras enseignant », non, c'est pas ça. Clairement, il s'agissait d'avoir ses études quelque part offertes par l'État, avec un engagement ensuite de 10 années de servir dans l'éducation nationale, ce que j'ai fait. Mais j'avoue que c'est aussi avec beaucoup de bonheur que j'ai exercé ce métier. Très jeune, comme je le disais.
Donc 10 ans, 10 ans d'enseignement.
C'est ça, un minimum 10 ans d'enseignement, j'en ai fait beaucoup plus en réalité. Mais ça a été en réalité un vrai bonheur de pouvoir enseigner cette matière si riche qu'est l'histoire géo. J'ai commencé dans un collège très rural d'Ille-et-Vilaine, aux confins de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine. Et puis je me suis rapproché progressivement de Rennes, de ma ville. Voilà. Et... parallèlement, je vais presque dire en complémentarité logique avec le métier d'enseignant. Ça franchement, ça fait partie de mes convictions profondes. Enseigner, c'est bien, c'est important, c'est essentiel. On instruit et surtout on éduque. Instruire, c'est faire apprendre des choses, c'est apprendre des choses. Éduquer, c'est aider les mômes à devenir des citoyens éclairés, responsables dans leur vie d'adulte. Et autour du métier d'enseignant, et j'ai toujours pensé que c'était essentiel, il y a forcément des engagements autour de l'école, des engagements de nature associative, syndicale, politique, pourquoi pas. Et ces trois qualificatifs, je les ai en réalité réalisés puisque j'ai eu un certain nombre d'engagements avant un engagement militant au sein de la Mutuelle, au sein de la MAIF.
Et du coup, comment es-tu passé du statut d'enseignant à président de la MAIF ?
Ah, c'est une longue histoire que je vais essayer de résumer dans ces épisodes principaux. On m'a sollicité, c'était en 1986, le 6 février 1986, je m'en rappellerai, je suis prof d'histoire, donc je suis un peu maniaque des dates, où on m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de devenir militant de la MAIF?
Alors c'est quoi? Ah donc déjà c'était militant, il n'y avait même pas eu d'étape entre les deux.
Non, militant de la MAIF, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, à Rennes toujours, consacrer une part de son temps libre, hein, de son temps bénévole quelque part, à agir pour la Mutuelle, aux côtés des salariés de la Mutuelle. Ça veut dire recevoir des sociétaires, être un médiateur de proximité, agir pour le développement local, etc.
La MAIF, hein, du coup, à l'époque, toi, tu te reconnaissais dans la marque? Dans la marque même, c'était quelque chose, c'était une marque qui rayonnait localement?
Non seulement je me reconnaissais dans la marque, mais quand j'ai acheté ma première voiture avec mes premiers salaires, à 21 ans, une Amicis. Formidable, une Amicis. Pas trop de freins, mais c'était une belle voiture.
Pas trop de freins.
C'était une belle voiture. Sans réfléchir aucunement, un enseignant de ma génération, forcément allait s'assurer à la MAIF. Et je dirais même que poser l'autocollant de la MAIF sur le pare-brise ou la lunette arrière du véhicule, c'était quelque part un acte de fierté. Parce que ça correspondait à l'époque, et c'est vrai, à une concrétude de l'ascenseur social. Être enfant d'une famille ouvrière et devenir enseignant, c'était véritablement démontrer que l'ascenseur social fonctionnait. On est là dans les années 70. Je dirais pas la même chose aujourd'hui, parce que malheureusement, le statut, le métier d'enseignant, comme d'autres métiers, hein, a perdu effectivement cette aura, je vais jusque-là, jusqu'à le dire, qu'il avait à cette époque. Donc j'ai pas réfléchi. La MAIF, j'en suis devenu sociétaire, hein, assuré à la MAIF dès mon plus jeune âge d'enseignant, c'est-à-dire dès 21 ans. Donc je me suis pas posé la question.
Très valorisant finalement d'être sollicité pour devenir militant de
Absolument.
Cette marque.
C'était une reconnaissance supplémentaire. De sociétaire, je suis devenu militant de la MAIF, c'est quelque part promoteur de la marque.
C'est ça, ambassadeur.
C'est
aujourd'hui,
ça, ambassadeur,
tous les ambassadeurs,
promoteur de la marque, militant de la Mutuelle, avec les valeurs de la Mutuelle, avec ce qu'elle pouvait et ce qu'elle continue à porter en termes de présence sociétale, et pas seulement sur le métier de l'assurance. Donc 1986, je deviens militant, j'apprends, je trouve le monde de l'assurance très compliqué, parce que comme tous les mondes un peu particuliers, il y a un langage, il y a des expressions, il y a des sigles, etc., etc. Bref, je me suis accoutumé à tout ça. Et puis, pour faire court, en 1997, hein, j'ai été élu au conseil d'administration de la MAIF, donc j'ai accédé à l'instance de gouvernance, hein, de la Mutuelle. En 2001, on m'a sollicité, le président de l'époque, qui s'appelle Roger Belot, m'a sollicité pour entrer à la direction générale, ce que, après réflexion, j'ai accepté. Et puis, en 2012, ce même président, Roger Belot, m'a, dans un entretien en tête-à-tête, en face-à-face, confidentiel, m'a dit... Moi, je songe à quitter ma fonction dans 2 ans, en 2014. Réfléchis, mais je pense à toi pour me succéder. Et donc, j'ai réfléchi, forcément. Faut jamais se précipiter dans ce genre de décision. Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça va changer dans ma vie personnelle, familiale. Et puis aussi une autre question encore plus de fond, c'est principe de Peter, quoi. Est-ce que accédant là, j'en serais capable? Et donc j'ai, après réflexion, accepté. Je suis devenu président de la Maïf en 2014.
Donc le paroxysme de le stade maximal de l'ascenseur social dont tu parlais. Là tu es devenu président de la marque qui t'inspirait et qui te...
Ah ben, le jeune enseignant que j'étais à 21 ans dans ce collège rural qui devait avoir 120 élèves, c'est vous dire l'importance du collège, on lui aurait dit garçon, tu seras président de la Maïf un jour. D'une société importante sur le marché de l'assurance, d'une mutuelle que j'ose qualifier d'exemplaire. J'aurais dit, on se calme là, hein, on se calme. Et puis ça a été le cas.
Tu me parlais du coup des valeurs de la marque. J'aimerais bien revenir dessus, puisque tu te reconnaissais déjà petit dans les valeurs de cette marque. Parle-moi, là, et même aujourd'hui, si elles ont évolué, ça m'intéresse de savoir si la marque a évolué, s'est adaptée aussi à la société.
Foncièrement, les valeurs de la mutualité en général, de la Maïf en particulier, c'est la volonté, et c'est la naissance même de la Maïf. 1934, 56 instits se réunissent, c'était le 17 mai je crois, au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte, et ils se disent, assurons-nous entre nous, assurons nos voitures entre nous, on sera, un, mieux assuré, et deux, on se libérera de sociétés anonymes, capitalistes, à qui on verse une prime d'assurance, et qui, à l'époque, contexte agressif, difficile au plan politique des années 30, ces sociétés-là tiraient à boulets rouges, à coups de presse et de journaux sur l'école publique, les instituteurs, les fonctionnaires d'une façon plus générale. Libérons-nous de tout ça, assurons-nous entre nous. Et donc, foncièrement, au départ, il y a cette dimension de solidarité, hein, et ces valeurs-là, qui sont cette valeur-là qui est véritablement foncièrement celle de la mutualité, elle se décline aussi au travers d'autres valeurs. Je pense notamment à celle de responsabilité. On ne peut être solidaires les uns des autres que si chacun assume sa part de responsabilité au regard des autres. Solidarité, responsabilité, confiance entre soi, et finalement une forme de regard sur les choses, sur la vie, sur la société, qui est que ensemble on est capable de construire un monde meilleur, on dirait aujourd'hui une société plus juste, plus durable, et ça c'est foncièrement les valeurs qui dans les autres militantismes, je vais dire que j'ai eu l'occasion de vivre, m'ont toujours animé. Et ça c'est foncièrement aussi les valeurs de l'école quelque part, hein, de ce métier d'enseignant.
Tout à l'heure, on échangeait un petit peu en off sur l'histoire de la marque. Ça m'intéressait, j'aimerais bien que tu peux me redonner l'histoire de la Maïf.
Oui, alors la Maïf, elle est née de cet acte 1934. On décide de s'assurer entre soi. C'est au départ un acte quelque part un acte politique. C'est un acte de rébellion. Hein, voilà, on sera mieux entre nous. C'est le concept même. Ça a commencé véritablement au 19e siècle. La Maïf n'a pas inventé la mutualité. C'est pas vrai. Elle existait au préalable dans le monde agricole ou autre parce qu'il fallait se protéger entre soi. Mais c'est véritablement, et je pense que ça irrigue toujours aujourd'hui ce que foncièrement est la marque Maïf, c'est-à-dire cette volonté de croire en nous-mêmes, de croire en les autres, d'afficher cet optimisme et cette confiance, hein, qui fait que, au niveau de ce qu'est foncièrement la Maïf, non pas seulement sur son objet social, sur son activité, on assure des véhicules, on assure des habitations, on assure des personnes, etc. Ça, c'est l'objet social. Hein. On a une forme juridique qui est la mutualité, la mutuelle. Nous sommes une mutuelle d'assurance, donc les gouvernants de la Maïf, ce sont les sociétaires eux-mêmes. Personnellement, je suis un élu du peuple, quelque part, des sociétaires, mais... La question qu'il faut se poser aujourd'hui et qui traverse le temps de l'entreprise, c'est finalement, à quoi sert la Maïf? Pourquoi la Maïf existe-t-elle? Et là, j'en arrive à une dimension toute récente, parce qu'on l'a publiée dans l'entreprise il y a simplement 15 jours, c'est la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est l'essence profonde, quelle est la motivation profonde qui anime l'entreprise qu'est la Maïf. Et on s'est dit que, au travers des 85 ans de notre histoire, 85 ans, 34-2019, nous portons une attention sincère à l'autre. L'autre, c'est le sociétaire, l'autre, c'est le collaborateur, l'autre, c'est le militant, l'autre, c'est la société, etc. Nous portons une attention sincère à l'autre, et par là même, nous portons une attention sincère au monde, et ça veut dire que dans chacun de nos engagements et dans chacun de nos actes, nous devons traduire très concrètement cette attention sincère vers le client sociétaire, vers le collaborateur, vers plus largement nos partenaires, les parties prenantes, la société. Et c'est ça qui traverse le temps de la Maïf. Et ça, nous voulons l'incarner, et je n'oublie pas l'histoire, hein, nous voulons l'incarner par une identité visuelle. Comment s'affiche la Maïf? Comment s'affiche publiquement la Maïf? Et s'afficher publiquement pour une marque, comme la nôtre ou comme les autres, c'est à la fois porter une signature, faire la démonstration que la signature que l'on a choisie trouve concrètement ses preuves dans le quotidien de l'activité de l'entreprise. Et puis c'est en même temps un graphisme quelque part, c'est un logo.
D'où le redesign il y a 2 semaines, donc c'était la date exacte, parce que peut-être que le podcast ne sera pas diffusé 2 semaines après le redesign du logo. La date exacte,
le 30 mai. Le 30 mai, nous
2019.
Avons réuni près de 2000 personnes, l'ensemble de nos managers, 200 collaborateurs, l'ensemble de nos élus et de nos militants, précisément à Nantes, dans une grande convention d'entreprise où nous avons, entre autres, révélé ce que serait notre nouvelle identité visuelle. Et cette nouvelle identité visuelle, c'est un nouveau logo, d'accord ?
Et ce nouveau logo qui, en plus, supprime le vert. Alors, à l'heure où toutes les marques essayent de remettre du vert dans leur logo pour se donner un petit peu une connotation green, toi, tu l'enlèves.
Oui, notre logo précédent, encore tout récent, il datait de 94. Donc déjà 25 ans pour un logo et pour une marque.
C'est une longue vie.
C'est beau, c'est bien. Il avait vécu, on va dire ça comme ça. Et nous avions ce triangle rouge entouré d'un carré vert. Résolument, aujourd'hui, nous avons supprimé ce vert, nous avons supprimé ce carré vert pour revenir finalement à un logo et à des marques d'origine. D'abord, sur 85 ans, le logo que nous venons de révéler, notre nouveau logo, ce n'est que le 6e. Donc voilà, hein, on est dans la durée, sur le long terme, et la mutualité aime bien le long terme. Nous avons des éléments de fidélité très forts dans ce logo. C'est d'abord le triangle. Depuis l'origine, le premier logo de la Maïf était un triangle, et un triangle de couleur rouge, et nous avons gardé cette couleur rouge avec... Maïf, dépassant de ce logo, ça veut dire quoi? De ce triangle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Maïf a vocation encore plus demain à s'ouvrir, et à s'ouvrir à des publics, à s'ouvrir à des personnes, à s'ouvrir à des communautés qui finalement se reconnaissent dans la marque. Et se reconnaître dans la marque, ça veut dire non seulement adhérer à ses valeurs, mais se sentir en phase avec les actions de l'entreprise, avec sa façon d'exercer le métier d'assurance, avec sa façon d'agir au plan sociétal, au plan environnemental. On ne cherche pas, la Maïf ne cherche pas, j'aurais insisté là-dessus, demain, quand bien même elle s'ouvrira encore davantage, à devenir, je dirais, une auberge espagnole, où on vient parce qu'on trouve que c'est intéressant, le prix est intéressant, les contrats sont intéressants, bref, et puis on va repartir 2 ans après parce qu'on pense avoir trouvé mieux ailleurs. Il y a, et je suis foncièrement attaché à ça, venir à la Maïf, c'est certes faire un acte de consommation, on vient assurer son véhicule, on vient assurer sa maison, mais c'est aussi quelque part, je ne vais pas dire un acte citoyen, en tout cas, un acte de connivence, un acte d'affinité avec une marque qui porte des valeurs, qui incarne ces valeurs dans l'exercice de son métier et dans tout ce qu'elle peut développer autour.
Tu me parlais des valeurs de responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. J'aimerais que tu reviennes là-dessus en termes d'action concrète. Tu me parlais aussi d'action concrète de la Maïf.
Oui.
Qu'est-ce que tu entreprends dans ce domaine?
Oui, alors la Maïf depuis longtemps a développé et va continuer à le faire encore plus, appelons ça une politique RSE.
Hein. Tout à fait.
Et une politique RSE pour un assureur, ça se traduit d'abord dans l'exercice quotidien du métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entretenir avec les gens qui lui font confiance, avec les sociétaires, les clients, on les appellerait comme ça dans d'autres milieux, les sociétaires pour nous, une relation véritablement de confiance. Ça veut dire quoi, une relation de confiance? Ça veut dire, par exemple, hein, quelques exemples concrets, dans le domaine du conseil et de la vente, nous demandons à nos conseillers, nous demandons à nos collaborateurs de développer une dimension d'écoute, d'empathie, de conseil désintéressé. Ça veut dire quoi un conseil désintéressé? Ça n'a l'air de rien, mais c'est important que nos collaborateurs conseillers vendeurs ne sont pas intéressés à la vente d'un produit, d'un contrat. Absolument pas. Ça veut dire que on dégage en quelque sorte un intérêt qui pourrait être un intérêt immédiat, hein, et marchand, pour placer à tout coup un contrat. L'autre exemple, c'est dans le domaine des sinistres. Nous demandons, on les appelle des rédacteurs, les personnes qui gèrent des sinistres, bien sûr d'appliquer un contrat, de gérer un dossier, mais avant tout de résoudre un problème, finalement, que rencontre un sociétaire. Problème plus ou moins petit ou plus ou moins important quand on touche des domaines d'accidents corporels, par exemple. D'avoir aussi cette écoute, d'avoir aussi cette empathie et de faire en sorte que, au besoin, quand une situation le mérite, parce que humainement, le contrat ne s'applique que partiellement, c'est pas logique, humainement, il y a une attention à porter, de pouvoir, ça c'est le bon sens finalement, faire un petit peu plus que. Et ça, je trouve que en termes de responsabilité sociale et environnementale, j'y viendrai, c'est le premier élément. Prouver dans son métier que les valeurs que l'on porte, que l'on donne dans nos discours, sont véritablement incarnées. Et puis, dans le domaine de l'assurance, l'assureur, il a aussi un autre métier, il est un investisseur. Hein, il est un investisseur, ça veut dire qu'il a un volume d'actifs à la Maïf, c'est près de 20 milliards d'euros qu'il doit placer sous des véhicules financiers qui s'appellent obligations, qui s'appellent actions, qui s'appellent actifs réels, etc. Nous devons être extrêmement vigilants, et ça c'est véritablement au cœur de notre politique RSE, sur l'éthique que nous voulons donner à ces placements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, très concrètement, que dans le domaine des obligations, particulièrement des obligations souveraines, c'est-à-dire des emprunts d'État, nous nous interdisons de souscrire à des obligations d'État qui, par exemple, continuent à pratiquer la peine de mort. Ça veut dire, par exemple, que nous n'avons pas, puisque les États-Unis, dans un certain nombre d'États pratiquent, continuent à pratiquer la peine de mort, nous n'avons pas d'obligation US dans notre portefeuille. En ce qui concerne les actions, nous sommes extrêmement vigilants à ne pas acheter des portefeuilles d'actions d'entreprises qui continuent fortement à développer l'énergie thermique, par exemple. Je ne parle pas du tabac, des armes, etc., etc. Ce qui fait qu'au total, pour nos investissements, nous atteignons un pourcentage de 82% de nos placements qui relèvent des critères ISR, hein, investissement socialement responsable. Et dans ce domaine, nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire spécifier encore davantage les investissements que nous voulons réaliser. Et tout récemment, convention d'entreprise à Nantes, nous avons annoncé que nous lancions, que nous créons un fonds d'investissement que l'on appelle Maïf Transition, où la Maïf va investir au départ 50 millions d'euros, puis nous monterons en puissance ensuite, pour concilier à la fois sur des terres agricoles qui sont reprises, à la fois le développement de l'agriculture bio et en même temps, sur les mêmes superficies, des énergies nouvelles, essentiellement par des champs de panneaux solaires. Et très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans le sud de la France, précisément à Bellegarde, ça a été inauguré il y a quelques jours, il y a des vergers d'abricots, je crois, bio, et en même temps, ces vergers sont surmontés de champs de panneaux solaires. On concilie ainsi le renouveau énergétique, énergie renouvelable, et en même temps agriculture bio. On se lance là-dedans. Aujourd'hui, je vais pas dire que c'est anecdotique, c'est très important, mais on est au démarrage de ça. Nous devons faire la démonstration en tant qu'entreprise responsable qui recherche avant tout, dans sa singularité, l'impact positif, à démontrer qu'en toute chose, compris pour nos actions sociétales, compris pour notre métier d'assureur. Un autre exemple, très rapidement. Un assureur, il indemnise la réparation de véhicules. Voilà, carrosserie, tout ça, voilà. Nous développons, et nous sommes pionniers dans ce domaine, et nous voulons porter une nouvelle filière qui se développe progressivement sur les pièces de réemploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de remplacer sur un véhicule une aile flambant neuve, hein, dont le concessionnaire auto a le monopole de la fabrication et de la vente, d'accord, nous pouvons promouvoir des pièces de réemploi, des pièces d'occasion tout simplement, reprises sur des véhicules qui ont été irréparables, qui sont confiées à nos déconstructeurs. Nous avons, je crois, un parc potentiel annuel de 32 000 véhicules que nous indemnisons à nos sociétaires, mais qui sont irréparables, qui sont déconstruits. Eh bien, un certain nombre de pièces peuvent être utilisées à cet effet. Économie quelque part circulaire, comme on l'appelle aujourd'hui, hein, où on va réemployer des pièces d'occasion. Ça relève aussi de la responsabilité sociale d'une entreprise.
Et comment est-ce qu'on fait quand on est une marque comme ça aujourd'hui pour communiquer autour de ces actions responsables avec la méfiance du consommateur qui déteste finalement qu'on lui pousse de l'info, qui prend ça pour du greenwashing aussi, très très fréquemment? Comment est-ce qu'on fait pour informer ces consommateurs de ce que l'on fait, de ce que l'on met en place? Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux? Est-ce qu'on fait des meetings offline aussi? Comment est-ce que, parce que c'est important aujourd'hui d'informer les gens de ce que l'on fait sans vendre son offre sur ses actions.
Bien sûr. Je crois d'abord que au préalable est très ancré quand même en termes d'image publique de la Maïf. Il y a la Maïf renvoie une forte image de confiance, de sincérité. La Maïf, c'est du vrai de vrai, quoi. Je crois qu'il y a véritablement ça ancré. Alors dire que c'est ancré chez 66 millions de personnes, ce n'est pas vrai, mais foncièrement il y a ça. Et les gens qui sont en grande proximité, nos 3 millions de sociétaires par exemple, nous renvoient très facilement cette image. Moi je crois qu'il y a avant de parler des canaux d'expression, il y a à mon avis quelque chose qui est fondamental, c'est de toujours veiller, parce que c'est ça qui construit la confiance, à ce qu'il y ait un alignement permanent et total des intérêts. Ça veut dire quoi, un alignement permanent et total des intérêts? Ça veut dire que l'intérêt de l'entreprise, de la mutuelle, sert aussi l'intérêt des sociétaires, sert aussi l'intérêt des acteurs internes, des collaborateurs, de nos 700 militants, sert aussi l'intérêt de nos partenaires. On peut pas avoir sur cet alignement une faiblesse quelque part, parce qu'on n'est plus totalement dans la vérité de l'image que l'on veut renvoyer. Hein. Et tout ça doit s'incarner dans une communication publique qui traduise véritablement cela. Ça ne veut pas dire faire du battage médiatique à tout coup. La Maïf, comme d'autres marques très nombreuses, utilise les canaux classiques qui s'appellent la télé, qui s'appellent le ciné, qui s'appellent la radio, qui s'appellent la presse, etc. On a fortement communiqué du fait de notre nouvelle identité visuelle, les réseaux sociaux pas moins, mais cette communication-là, par rapport à l'image qui est la nôtre, elle ne doit pas être tape à l'œil, elle doit renvoyer complètement les valeurs de l'entreprise. Si par exemple, on a gardé, et ça c'est tellement ancré dans le paysage aussi, si on a gardé notre signature assureur militant, qui remonte à 2000, ça veut dire qu'elle a près de 20 ans, on a décidé pour les années prochaines de garder cette signature. Parce que c'est profondément la Maïf, parce que c'est profondément sincère par rapport à ce que nous sommes et par rapport à ce que nous démontrons. Et en même temps, c'est d'une puissance phénoménale. Enfin, quand on parle de l'assureur militant forcément, dans le paysage, qu'est-ce qu'on entend? On entend Maïf. Pas un hasard quand même, c'est pas un hasard. Voilà.
J'allais te demander si tu te reconnaissais dans les valeurs de ta marque, mais tu respires les valeurs de ta marque. Donc je pense que la question a trouvé sa propre réponse. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour pour l'avenir? Est-ce que t'as encore un escalier, enfin une marche à l'ascenseur social, ou t'es déjà satisfait de
En ce qui concerne
parcours.
Moi.
Oui, toi aussi, et la Maïf. Hein.
Ah oui, la Maïf surtout.
La Maïf, ben, les deux.
Moi, ce qui fait la force d'une entreprise en général, sa pérennité, c'est que les hommes et les femmes passent et l'entreprise demeure. Il faut beaucoup d'humilité. Moi, ma fonction de président, de militant avant, etc., etc., je suis toujours militant, dans cette fonction de président. Pour moi, l'engagement, c'est trois mots. C'est valable pour l'engagement Maïf, c'est valable pour tous les engagements, à mon avis. C'est sincérité. Voilà, on peut pas faire du bluff, quoi. Si on s'engage, on fait pas du bluff. Sincérité dans les convictions que l'on porte, dans les valeurs que l'on veut démontrer, dans les décisions que l'on prend. Sincérité. L'autre mot, c'est loyauté. On peut pas tromper. On peut pas tromper les autres. La loyauté absolue. Et la loyauté, c'est aussi la liberté de parole, de débat, etc., etc. Mais la loyauté. Et puis la troisième, c'est l'humilité. De considérer que on est là, à un moment donné, on fait des choses bien, un petit peu moins bien, on prend des bonnes décisions, on peut en prendre de moins bonnes. Mais l'humilité. Avant tout, le succès d'une entreprise, c'est un succès collectif, c'est un succès d'une communauté qui a envie d'agir ensemble. Et je crois qu'à la Maïf, ça, c'est extrêmement fort. Alors moi, ce que je peux souhaiter pour la Maïf, pour les années futures, c'est que elle vive, voire elle précède les transformations nécessaires, digitales par exemple. Quels seront nos concurrents demain? Qui sont demain, dans 10 ans, les concurrents de la Maïf? Est-ce que ce sont les banques assureurs comme aujourd'hui? Ou est-ce que c'est Amazon, Google, je ne sais quel mystère venu d'une autre planète, etc., etc. Bon, on doit être en capacité de répondre à ça. Et on répondra à ça parce que nous démontrerons que notre modèle, il fonctionne foncièrement sur la singularité et la différence. Voilà. Et si j'ajoute un mot, mon souhait pour la Maïf de demain, je n'y serai plus, j'espère que je serai toujours de ce monde, mais je ne serai plus à la Maïf, c'est que nous puissions continuer à décider pour nous-mêmes et par nous-mêmes.
Merci Dominique, merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à partager, liker et commenter le podcast. Et suggérez-moi des profils intéressants, je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.